Alors, on est dans Genèse 5, je vous invite à prendre une Bible, il y en a quelques-unes aussi qui sont sur le présentoir, c'est bien d'avoir le texte devant vous. On est dans une deuxième grande section, d'accord, de la Genèse. On avait vu qu'il y avait une qui commençait à 2, 25, chapitre 2, verset 25, où Moïse nous indique qu'il est en train de commencer un grand paragraphe de l'histoire du monde, et ça commence, voilà la généalogie 2, d'accord, à chaque fois. Et puis donc on est au chapitre 5, verset 1, et voici le livre de la généalogie d'Adam, ici en l'occurrence, ou la postérité d'Adam, ça dépend un peu de la traduction que vous avez devant vous, la génération d'Adam. Okay? Et puis il y en a un autre qui va commencer, en chapitre 6, verset 9, voici la généalogie de Noé, ou voici la postérité de Noé, la génération de Noé. Et donc Moïse, il nous indique, il n'y avait pas le traitement de texte à l'époque, donc il nous indique, voilà les grands... ensemble de pensées par lesquelles il nous emmène. Et franchement, si j'avais pu choisir, si on n'était pas dans un mode de fonctionnement en série, ce matin j'aurais préféré ne pas prêcher sur Genèse 5, parce que c'est un passage un peu difficile, et il y a des choses où c'est pas évident de comprendre précisément avec certitude ce que Dieu dit ici. Mais quand même, il y a des choses importantes. Et c'est aussi un passage un peu sombre. Et donc, on n'a pas trop envie d'entendre ces passages-là, des fois. Mais c'est un passage sombre qui n'est pas sans espoir. Il y a aussi une lumière. Et ce passage, je pense, ce matin, nous dénonce et rejette deux mensonges. Peut-être les deux plus grands mensonges qui ont eu lieu dans le courant de l'humanité depuis ses débuts. Le premier mensonge, nous sommes des bonnes personnes. Par nature, nous sommes bons. Et ce passage nous montre que non, ce n'est pas le cas. Le deuxième grand mensonge, c'est que Dieu est un Dieu d'amour, donc il ne va pas juger. Mais de nouveau, ce passage ce matin nous dit que non, ce n'est pas le cas. Un peu sombre, je vous l'accorde. Mais c'est jamais sans espoir, parce qu'on l'a lu, encore dans le psaume. Dieu est un Dieu bon, patient, fidèle, compatissant, clément. Il tient pas rancune pour toujours. Et donc, bien qu'il soit un Dieu de justice, il est aussi un Dieu d'amour. Et c'est ce que j'espère nous allons aussi découvrir ce matin dans ce texte de Genèse 5. Alors, je vous invite à lire avec moi. Genèse chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la généalogie d'Adam. Le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'humain, c'est-à-dire ou Adam, le jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il l'appela du nom de Seth. Les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Adam qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 105 ans, excusez-moi. Puis il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, Seth vécut 807 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Enoch vécut 90 ans, puis il engendra Cainan. Après la naissance de Cainan, Enoch vécut 815 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Enoch fut de 905 ans, puis il mourut. Cainan vécut 70 ans, puis il engendra Mahalaleel. Après la naissance de Mahalaleel, Cainan vécut 840 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Cainan fut de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel vécut 65 ans, puis il engendra Yéred. Après la naissance de Yéred, Mahalaleel vécut 830 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Mahalaleel fut de 895 ans, puis il mourut. Yéred vécut 162 ans, puis il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, Yéred vécut 800 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Yéred fut de 962 ans, puis il mourut. Enoch vécut 65 ans, puis il engendra Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu 300 ans encore après la naissance de Mathusalem. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. Mathusalem vécut 187 ans, puis il engendra Lémec. Après la naissance de Lémec, Mathusalem vécut 782 ans, il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Mathusalem fut de 969 ans, puis il mourut. Lémec vécut 182 ans, puis il engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine de nos mains sur cette terre que le Seigneur a maudite. » Après la naissance de Noé, Lémec vécut 595 ans et engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Lémec fut de 777 ans, puis il mourut. Noé vécut 500 ans, puis il engendra Sem, Cham et Japhet. Lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles. Et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, « Mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » En ces jours-là, et encore après cela, les Néphilim étaient sur la terre. Lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des humains, et qu'elles leur donnèrent des enfants, ce sont là les héros d'autrefois, les hommes de renom. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit, « J'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Ma première partie, c'est ce qu'on voit partout dans ce début de Genèse, dans le chapitre de Genèse 5, n'est-ce pas ? La mort est partout. Elle indique qu'il y a un problème grave entre Dieu et nous. D'abord, un premier constat, tous les hommes meurent, peu importe la longueur de leur vie terrestre. Vous voyez ça dans Genèse 5 ? La durée de la vie des descendants d'Adam par la lignée de Seth est impressionnante en fait. Certains refusant de reconnaître l'existence de Dieu et ramenant la révélation biblique aux limites de leur propre raisonnement humain, en ont déduit qu'il s'agissait d'une preuve selon laquelle la Bible n'est pas ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire la parole de Dieu, porteuse de son autorité. Mais soyons un peu plus malins. On a déjà remarqué que Moïse est en train de construire de manière très soignée son récit. Il choisit des mots très précis, il fait des allusions, il est en train de construire justement. Et même ici dans Genèse 5, vous voyez cette ritournelle qui revient, c'est très construit, cette répétition, elle est voulue, elle est pensée. Et tout cela, il est en train de le faire en étant porté par l'Esprit de Dieu, juste pour qu'on se rappelle ça aussi. Dans 2 Pierre 1, verset 21, c'est la Bible qui affirme cela, si vous voulez vérifier. Donc il utilise des procédés littéraires, il utilise la logique, d'accord, qu'on peut comprendre, c'est pas quelque chose qui est hors de notre compréhension, et tout ça pour servir un sens, pour servir un but, pour communiquer un message. Gardons-nous donc d'imaginer l'auteur du Pentateuque comme un primitif sauvage et inculte, qui ne sait pas ce qu'il fait quand il fait ce qu'il fait. Alors quand même, ça nous pose un problème un peu, hein, d'accord ? On essaie de comprendre pourquoi ces chiffres, pourquoi ces durées de vie tellement longues. Il y a quelques solutions possibles, je vais essayer de ne pas m'attarder tout de suite, je me suis promis de ne pas être trop long ce matin, mais j'espère que je vais tenir ma promesse. Ok, une raison, peut-être c'est pas les mêmes conditions de vie avant le déluge qu'après le déluge. Car il y a quand même un choc dans le déluge qui peut peut-être changer la manière dont on vit maintenant par rapport à comment c'était avant. Certains ont vu ici que les noms qui sont donnés ne sont pas forcément une filiation directe, mais ça peut être le chef des tribus, des dynasties. Si vous comparez ça un peu avec l'histoire de la France, par exemple, on dit il y a les Capétiens, qui sont les fils de Hugues Capet, d'accord ? Les Carolingiens, les fils de Charles Martel. Donc quand on dit les Carolingiens ou les fils de Charles Martel, on a vu en fait toute une période de l'histoire dans laquelle plusieurs hommes, d'accord, se succèdent comme roi de France, par exemple. C'est peut-être le cas ici. Peut-être les noms qui sont mentionnés sont les chefs de tribus, de clans, d'accord. Et puis ça succède, donc ça prend en fait plus. C'est pour ça que ça explique les durées de temps. Une autre chose que j'ai trouvée aussi dans un commentaire qui est intéressante, c'est qu'à l'époque où Moïse écrit, donc en Babylonie, il y a aussi des listes de rois. Et les Babyloniens ont augmenté la durée réelle de la vie de ces rois par un chiffre. Donc ils ont multiplié par 3600. D'accord ? Et après le déluge, ils multiplient par 60 la durée de vie de ces rois. Et ici, en fait, on remarque que toutes les années sont des multiples de 5, toutes les années qui sont données, et parfois c'est ajouté de plus 7 ou de plus 7 plus 7, donc 14. D'accord ? Si ça vous amuse, donc cette semaine vous regardez, vous faites les calculs, vous retrouvez comment ça peut être un multiple de 5 augmenté de 7. Donc ok, on va pas aller plus loin pour ça, mais juste pour dire qu'en fait on dirait en fait que Moïse a très très bien conscient de la difficulté. Et quand on fait ces calculs, par exemple pour Adam, 130 ans, c'est 5 fois 26 ans. Donc quand on lit au verset 3, Adam vécut 130 ans puis il engendra un fils à sa ressemblance, ça voudrait dire, donc si on divise 130 par 5, d'accord, ça fait 26 ans, c'est un âge tout à fait raisonnable, n'est-ce pas, pour avoir un enfant. Et ça ramène la durée de vie de toutes ces personnes à des nombres un peu plus, on dirait, raisonnable, d'accord, pour nous. Par exemple, 800 ans, ça ferait 5 fois 160 ans. Ok. 160 ans, c'est quand même une sacrée longue période de temps. Jeanne Calment, 123, d'accord. Et déjà là, on est impressionné. Donc, on comprend que ces chiffres-là ont une réalité, mais en même temps, il y a une réalité symbolique aussi qui se superpose là-dessus. Par exemple, Enoch, regardez au verset 23. Il marcha avec le Seigneur 365 en. On sait que nous, 365, c'est le nombre d'une année, de jours dans une année. Peut-être que Moïse est en train de nous dire que Enoch a marché tous les jours de sa vie, tous les jours de toute sa vie, il a marché avec le Seigneur. Ok, on ferme un petit peu la parenthèse. Parce que même avec ce type de calcul, on arrive à des chiffres impressionnants. Et en fait, peu importe, dans un sens. Parce que la vie est longue, mais on n'en jouit pas. On est tiraillé, n'est-ce pas, dans notre monde actuel, entre vivre longtemps. Il n'y a jamais eu autant de crèmes anti-rides, de thalasso, des seniors qui veulent garder la forme et qui s'inscrivent dans les clubs hein, pour faire de la gym et tout. Et en même temps, le refus de la souffrance. Si c'est pour vivre en étant malade, si c'est pour vivre en manquant d'autonomie, autant mourir tout de suite et abréger cette peine. Et c'est ce que certains essayent de promouvoir dans l'euthanasie. D'accord ? Je suis en train de parler des choses réelles, n'est-ce pas ? Qui sont dans notre monde actuel. C'était déjà la pensée de Lémec, le papa de Noé. Regardez au verset 29. La vie est longue et courte en même temps. Et elle est souvent pénible. Et voilà ce que dit Lémec au verset 29. Lémec engendra un fils, il l'appela du nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera ». Et Noé, en fait, ça signifie « consoler ». Celui-ci, ce fils, nous consolera de notre travail et de la peine de nos mains sur cette terre que le Seigneur a maudite. La vie est longue, la vie est courte. Et je crois que l'accent principal du texte, en fait, est encore même plus précis que ça. Vous avez dû le ressentir à la lecture, n'est-ce pas ? Dans ce qui revient comme un leitmotiv lancinant, qui nous fait des frissons dans le dos. Un tel vécu, il engendre des fils, génial. Puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Peu importe la durée de la vie, c'est la mort que nous voudrions éviter. La vie de l'être humain est étrange, n'est-ce pas ? Quelle joie de donner la vie à des enfants. Les naissances sont un moteur de l'avancement de l'histoire. particulièrement dans l'Ancien Testament, depuis Genèse 3.15, on est à la recherche, d'accord, du descendant d'Ève que Dieu avait promis. Celui qui va venir pour écraser la tête du serpent, même s'il va être mordu au talon. Et dans les termes bibliques de Genèse, ça nous parle d'un homme qui va venir, qui va naître donc, va venir à l'existence dans ce monde comme un homme, qui va naître d'une femme et qui va remporter la victoire sur le diable une fois pour toutes, même si ça va se faire au prix de grandes souffrances. Donc c'est la joie, on donne la vie, mais on est incapable de conserver la sienne. C'est bizarre, nous mourons. Mais ce n'est pas le plan initial de Dieu. Et pour ceux qui étaient là jusqu'à présent, et sinon je vous invite à relire Genèse chapitre 2 jusqu'à 4, en fait la mort est l'indicateur d'un problème entre Dieu et nous. Ce n'était pas comme ça que c'était prévu au départ. Cette mort-là, elle est la conséquence du péché. Et pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est le péché, voici ce qu'on a vu dans Genèse chapitre 3. C'est le désir d'autonomie de l'homme par rapport à Dieu. C'est la volonté de décider indépendamment de Dieu de ce qui est bon ou mauvais. De vivre en dehors. C'est la volonté de vivre en dehors de la relation avec Dieu, notre Créateur. Voilà le péché. C'est une attitude, un style de vie opposé à Dieu et à sa parole. Et c'est ce que Dieu avait annoncé en Genèse 2, verset 16, au moment où il fait alliance avec l'homme, où il sécurise pour le bien de l'homme la relation avec lui. Voilà le cadre dans lequel la relation avec Dieu pouvait s'épanouir. Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, de tous, d'accord, c'est la bénédiction en profusion, mais tu ne mangeras pas d'un seul arbre, de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu avait averti, Dieu avait annoncé que si l'homme sortait de cette alliance, de cette bonne relation avec son Créateur, il y aurait une conséquence terrible, la mort, qui n'était pas au départ, qui est une conséquence du péché. Et si vous vous rappelez, c'était le point principal auquel le diable s'était violemment attaqué, en faisant croire de façon mensongère que Dieu ne ferait pas ce qu'il a dit. Ah ! Ouais, Dieu a vraiment dit que vous allez mourir. Mais non, l'écoutez pas. C'est ça qu'il a dit dans Genèse chapitre 3. Il a dit à Adam et à Ève, et Adam et Ève ont cru le serpent, que décider de rompre la relation avec Dieu n'aurait pas cette conséquence désastreuse de la mort. Mais ils ont désobéi, ils sont sortis et ils sont morts. Adam, la totalité du jour d'Adam vécu fut de 930 ans, puis il mourut. Et tous les hommes meurent. Regardez Genèse, ça s'enchaîne. Et c'est vrai, peut-être plusieurs ici sont bien attentifs au texte et ils sont en train de se dire: attends, tous, non, tous ne meurent pas. Vous avez remarqué ça? Dans toute cette liste, il y a deux exceptions, n'est-ce pas ? Enoch, le septième. D'ailleurs, Lémèque, si vous vous rappelez, dans la descendance de Caïn, il était aussi le septième. Le septième dans le pire, d'accord ? Pire que son père, son ancêtre Caïn. Ici, Enoch, le septième après Adam. Il marche avec le Seigneur. Et un jour, il n'est plus parce que Dieu l'a pris. Et puis Noé, le dixième. Dans ce passage-là, on voit pas qu'il meurt, n'est-ce pas ? Il engendre des enfants. C'est deux exceptions qui confirment la règle, si vous voulez. Et si on veut être précis, en respectant le texte, quand on dit « Enoch ne meurt pas », en fait, il ne finit pas sa vie ici de la même manière que les autres. Vous voyez ça au verset 24. Ok, alors on va réserver cette bonne observation pour notre dernière partie. Car oui, il y a un espoir. Si tous, absolument tous, mouraient et qu'il n'y avait aucune voie de sortie, ce serait la fin de l'histoire. Il n'y aurait pas besoin du reste de la Bible. Mais regardez toutes les pages qui nous restent encore à creuser, à découvrir. Nous n'aurions plus qu'à attendre, dans la crainte, le jour de notre mort physique, de notre condamnation éternelle, donc de notre mort spirituelle éternelle. Mais il y a un espoir, patience. Donc continuez d'écouter. Mais sur la base du schéma qu'on voit ici dans Genèse 5, on voit que tous meurent. Et si tous meurent, c'est que tous sont pécheurs. Puisque la mort, c'est la conséquence du péché, n'est-ce pas ? Alors voilà le premier mensonge qui est mis à découvert. Il est dur à entendre cette vérité. Nous ne sommes pas des êtres bons par nature. Nous ne sommes pas des bonnes personnes. On entend aux enterrements des uns, des autres, « Ah, cette personne était bien, elle a fait ça et ça de bien. » Je ne veux pas noircir le tableau, c'est vrai qu'on peut faire du bien, d'accord, mais cette personne n'était pas bonne par nature. Je ne suis pas bon par nature. Nos émotions, notre perception de nous-mêmes, nos amis autour de nous, la télé, le discours ambiant, c'est « tu es une bonne personne ». Et nous voulons entendre ça, d'accord ? Parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous rassure. Mais c'est un mensonge, n'est pas la vérité. Je ne suis pas que mauvais, j'ai fait ceci de bien, j'ai fait ceci de bien. C'est vrai, et c'est tant mieux. Et c'est en fait une grâce de Dieu. J'ai fait plus qu'un tel. Ok, mais je peux te montrer un tel qui a fait plus que toi. Et qu'est-ce qu'on peut dire des motivations secrètes de nos cœurs qui nous poussent à faire les choses qu'on estime être bonnes ? Qui est-ce qu'il faut croire ? Le mensonge ambiant, ce que notre cœur voudrait nous murmurer naturellement à nos oreilles ? Ou croire la Bible, croire le verdict de Dieu ? Romains 3, versets 9 à 12, nous lisons. Que dire donc ? Sommes-nous supérieurs aux autres ? Parce que moi, je suis supérieur à vous en vous disant ça. Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Rome, que juifs et non-juifs, d'accord, le peuple qui avait pourtant été choisi par Dieu dans le passé, et les non-juifs, donc tous les êtres humains, tous sont sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Peut-être ici, il y en a qui est en train de dire comment le péché alors est venu jusqu'à moi depuis Adam. Nous, on n'était pas avec lui dans le jardin. On n'existait même pas. C'est pas nous qui avons pris le fruit de cet arbre défendu. C'est pas juste qu'on doive mourir. C'est pas juste. Mais regardez, chapitre 5, verset 3. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils. Comment il était ce fils ? À sa ressemblance, selon son image. Nous sommes maintenant à la ressemblance, à l'image d'Adam, bien qu'ayant été créé au départ à l'image de Dieu. Il y a cette ambivalence en nous. On continue à garder des traits de l'image de Dieu, parce que Dieu n'a pas anéanti ça, mais c'est complètement déformé, brisé, altéré par l'image d'Adam en nous aussi maintenant, les traits caractéristiques d'Adam, notre père, notre ancêtre, dans la rébellion contre Dieu. Est-ce que nous avons... ce n'est pas une transmission génétique, je dis les choses rapidement. Ce n'est pas ça le sens de Genèse 5.3. Est-ce que ça serait à la ressemblance parce qu'on est en train d'imiter les actes d'Adam ? Non, ce n'est pas non plus que nous naissons bons, d'accord ? Et que la société nous corrompt, qu'on a tellement de mauvais exemples autour de nous qu'on finit par faire... Par suivre le mauvais exemple, c'est la pensée du philosophe français Jean-Jacques Rousseau. C'est encore une idée très présente aujourd'hui. Comme si nous devenions pécheurs en imitant les mauvais exemples d'hommes autour de nous, qui auraient eux-mêmes suivi le mauvais exemple de ceux qu'ils auraient précédés, etc., de proche en proche, jusqu'à Adam. Mais cette théorie ne tient pas debout. En premier, parce que la Bible affirme très clairement que ce n'est pas le cas, que nous sommes bons. Nous ne naissons pas bons naturellement. Même pour Enoch, même pour Noé, elles n'affirment pas qu'ils sont bons. De plus, si Adam n'était qu'un exemple, comment se fait-il que tous les hommes aient systématiquement suivi cet exemple ? Il y aurait dû y avoir des exceptions. Enoch et Noé sont pas mal, mais je vous invite à lire la suite, chapitre 9 en particulier pour Noé. Ils sont différents, mais ils n'ont pas cette bonté naturelle en eux, à moins d'une intervention de Dieu donc. Nous ne sommes pas bons. Et Romains 5 nous explique un peu le phénomène. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc ce passage nous dit que nous subissons la conséquence du péché d'Adam. Comme on avait expliqué, quand le président de la France déclare, par exemple, la guerre à la Russie, il n'est pas tout seul, il décide tout seul de ça, mais la conséquence, elle est pour tous les citoyens français. Tous les citoyens français, de fait, deviennent des ennemis, des cibles à abattre pour un Russe. Et donc, Adam nous a entraînés dans cette guerre contre Dieu. Et nous, il est notre chef, donc il a décidé pour nous de ça. Mais il a fait, donc il s'est rebellé contre Dieu. Mais regardez, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et en fait, depuis, nous l'avons tous fait, de nous rebeller contre Dieu. Et le salaire que verse le péché, Romains 6, 23 nous dit cela, c'est la mort. Et on le constate, c'est notre vie, c'est ce qu'on voit autour de nous, c'est déjà là, en Genèse, au début de l'humanité. Donc, tous meurent, parce que tous ont péché. C'est ma première partie. La deuxième partie, c'est le deuxième mensonge. Ah, Dieu, un Dieu d'amour ne peut pas punir. Un Dieu d'amour ne peut pas juger. Chapitre 6, versets 1 à 7. Le jugement, en fait, du temps de Noé, indique bien que Dieu va de nouveau juger le monde. La perversion de l'être humain a été telle dans le passé que Dieu a jugé le monde. Et à quel point? Au point que presque tous, ont été effacés de la terre. La Genèse nous relate un épisode un peu énigmatique au premier abord, et avec les explications qu'on peut trouver même, nous laisse un peu mal à l'aise. Mais c'est une illustration de la rébellion extrême dans toutes les sphères de la création. Aucun endroit de la création n'a été épargné par le péché. Toutes les sphères de la création ont été atteintes par le péché. La terre est maudite, les animaux, les plantes, l'humanité, hommes et femmes, même les êtres dans le monde céleste, certains anges qui étaient pourtant dans la présence glorieuse de Dieu ont osé se révolter contre lui en suivant leur chef, Satan. Et on voit le diable actif, ici encore, au début de Genèse 6. La difficulté, donc je relis peut-être, « Lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des fils leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, « Mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain. » Et il y a l'annonce du jugement. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire « fils de Dieu et fille des humains ». J'avais dit dès le départ, si j'avais pu choisir, je n'aurais pas prêché ça. J'essaie de vous expliquer du mieux que je peux. Cette expression « fils de Dieu », c'est parfois employé pour indiquer des rois, des personnes en position d'autorité, les puissants de ce monde. Parfois, dans l'Antiquité, ils étaient même divinisés. Et cette expression, elle fonctionne des fois dans la Bible, mais elle n'est pas si couramment employée dans l'Ancien Testament. J'ai trouvé ça sur Wikipédia, peut-être ça peut nous aider à comprendre un peu le principe. Les papes, je cite Wikipédia, ok ? Les papes qualifièrent de fils aînés de l'Église les rois de France. Le prestige du royaume des Francs, puis du royaume de France, provenait en partie du fait que ces rois étaient les successeurs directs de Clovis Ier, premier roi barbare baptisé catholique. Le titre de fils aîné de l'Église, entre guillemets, n'était pas officiel, mais il s'imposa progressivement comme désignant sans équivoque le roi de France. Vous voyez ? Même principe. Donc les fils de Dieu pourraient être des rois ou des chefs humains, mais cette expression, elle semble mise en contraste avec les filles des humains. Alors du coup, si c'est humain et humain, on a du mal à comprendre de quoi il s'agit vraiment. Ok, alors on cherche une autre piste, dans la Bible toujours. Une autre piste pour l'expression « fils de Dieu » dans la Bible, c'est quand la Bible désigne des créatures célestes, des anges au départ. Et ici en fait dans chapitre 6, des démons. puisqu'on les voit agir de façon opposée à la volonté de Dieu. Il s'agit donc des êtres célestes mauvais qui ont suivi le diable dans sa rébellion contre Dieu. Okay, les commentaires, et je veux bien vous prêter tout ce que vous voulez, que j'ai lu tendaient à penser avec humilité, on est devant le texte là ici, on avance avec précaution, que la pratique ou les événements qui sont décrits ici pourraient être aller dans le sens que des démons iraient vers des femmes humaines. Mais ils sont immatériels, d'accord ? Donc ce serait avec la complicité d'hommes, une sorte de possession, d'accord ? Démoniaque, suivie de ces hommes qui prennent toutes les femmes, qui choisissent. À ce point-ci, j'aurais bien aimé trouver une petite blague ou une parole un peu légère pour décontracter un peu l'atmosphère, mais désolé, je n'ai pas trouvé, pas faute d'avoir cherché. Ok. Maintenant, on essaye de réfléchir. Et quelle certitude on peut avoir ? Peut-être qu'on a du mal à admettre ça, parce que pour nous, ça serait un choc. Pour nous, c'est bizarre, d'accord ? On est mal à l'aise. En fait, c'est une bonne chose qu'on soit mal à l'aise. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, qu'il y a une sorte de perversion extrême dans des pratiques occultes, dans la sexualité. Une perversion dans le sens où tout est chamboulé. Les limites entre les sphères célestes et la sphère terrestre, tout, ceux qui devaient être restés dans cette sphère-là sont maintenant ici dans la sphère terrestre et ceux qui sont ici et devaient être en relation avec Dieu mais non pas forcément avec les anges, d'accord ? Ou les démons, encore pire, sont en train de s'arranger ensemble. S'il s'agit même de rois humains, ça ne change rien. Le fait qu'ils semblent prendre des femmes pour leur beauté et profiter et abuser d'elles, pas une bonne chose. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas ? Il y a des gens puissants qui trafiquent, trafic humain, la prostitution en fait, on ne veut pas la nommer comme ça. Les relations sans l'homme humain, on est juste attiré par la beauté d'un tel ou un tel. Et puis, une attitude selon laquelle on pourrait user et abuser des femmes au seul motif qu'elles sont belles, ça met Dieu en colère. Et donc le deuxième mensonge qui est mis à découvert ici. Ce mensonge, il dit, tout ira bien. Dieu est amour, donc il ne va pas juger le monde. Mais ce n'est pas ce que nous lisons. Quand il voit cela, le Seigneur dit, mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair. Il n'est rien, c'est-à-dire, il est une fleur en train de faner. Et il annonce, encore 120 ans, et puis je vais mettre fin à ça. Et le Seigneur, au verset 5, vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit, j'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Quand on dit Dieu regrette, Moïse est en train de prêter pour qu'on comprenne, nous, des sentiments humains à Dieu. D'accord ? Mais Dieu sait ce qu'il fait, il est en train de dérouler son plan. Mais ce mensonge, tout ira bien, Dieu est amour, il ne va pas juger, est un sacré mensonge qui nous fait perdre de vue la réalité. On ira tous au paradis, dit la chanson. Comment un Dieu d'amour pourrait-il condamner l'humanité à une peine aussi terrible qu'un déluge, par exemple, ou toute la population terrestre, quasiment est effacé. C'est la suite du récit. On voit, c'est ça qui est arrivé. C'est exactement ce que Dieu a fait. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, c'est vrai. Mais c'est aussi un Dieu de justice. Et à ce titre, sa colère est juste. Et en fait, elle est pleine d'amour même. Je voudrais essayer de vous aider à comprendre ça. Imaginez un Dieu qui ne soit qu'amour et pas justice. Vous vous retrouveriez au paradis avec celui qui vous a blessé cruellement, sans que justice soit faite. Hitler serait assis à côté des millions de ceux qu'il a exterminés dans les camps de concentration, ni vus ni connus. Marc Dutroux serait assis au paradis à côté de jeunes filles qu'il a détruit. Personne ne pourrait apprécier l'amour de Dieu dans un cas pareil, même pas vous. Donc toute injustice sera jugée et condamnée, et c'est une bonne chose. Toutes les injustices qu'on nous a faites seront jugées et condamnées. Mais le grand problème, nous l'avons vu dans la première partie, c'est que nous sommes, nous aussi, chacun, pécheurs, injustes, ennemis et rebelles devant Dieu. Et nous aussi, nous avons fait du mal à d'autres. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Au milieu de cette sombre réalité, Dieu est prêt à faire grâce à un homme, comme il avait fait pour Enoch, comme il a fait pour Adam et Ève en leur donnant Seth. Dans ce tableau sombre, Dieu était en train, malgré tout, de tenir sa promesse de sauver, de faire échapper à la condamnation une descendance d'Adam et de Ève. Et on le voit, Enoch, on voit Noé et sa famille. Donc il y a une vérité impossible à cacher, à détruire ou à occulter. Dieu fait grâce. Dieu est celui, le seul, qui peut nous faire échapper à la mort, qui peut nous laver, effacer nos transgressions, notre péché. Rappelez-vous le psaume qu'on a lu tout à l'heure. Et donc, c'est le seul qui peut régler la question de notre cœur mauvais. Et voyez avec quelle patience, alors. C'est pas, s'il n'y a pas de jugement qui tombe tout de suite, c'est parce que Dieu patiente. Il annonce son jugement et il patiente. Dans 120 ans, à l'époque de Noé, il dit « Je vais détruire par un déluge. » C'est pas comme si ça arrive par surprise. « Ah bon, je ne suis pas au courant. » Il y a un Dieu, ah bon, il... En fait, au fond de nous-mêmes, on sait très bien. De même, Dieu a annoncé et continue d'annoncer qu'il va juger le mal dans le monde et dans le cœur des hommes, des femmes, pécheurs, pécheresses. Encore ce matin, il nous le dit. Il est en train de le dire maintenant. On ne connaît pas les dates, on ne connaît pas le temps. On sait juste qu'aujourd'hui, c'est le temps de la patience de Dieu. Mais ça va venir, c'est certain. Mais ce n'est pas sans espoir, parce que Dieu propose sa grâce. Des enfants naissent jusqu'à ce que tous ceux qui ont été appelés avant la fondation du monde soient sauvés. Et c'est dans le cours de l'histoire humaine que Dieu est en train d'agir pour sauver. Peut-être dans le cours de ta vie ce matin, que Dieu est en train d'agir pour te sauver. Et on voit Enoch, ils sont différents, n'est-ce pas ? Ils sont nés comme nous, à l'image d'Adam. Mais il s'est passé quelque chose, ces deux. Ils ont marché avec le Seigneur. Ils ont été en communion avec Dieu. Ils ont été dans une relation restaurée avec Dieu, réconciliée avec Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle insurmontable pour Dieu. Peut-être tu regardes ta vie et peut-être tu es en train de te dire, oh là là, moi je vois très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que la Bible est en train de me dire ici ce matin. Les choses mauvaise que j'ai faite. Je sais très bien la condamnation. Mais Enoch aussi, mais Noé aussi. Ils n'étaient pas des êtres parfaits venus comme ça, parfaits au monde. Ils étaient de la même nature que nous. Mais ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu ne s'arrête pas à ça. Elle peut surmonter cet obstacle-là de notre péché, de notre rébellion dans notre cœur. Je vous invite à reprendre Romains 5. Je vous lis à partir de verset 15. Romains 5, verset 12, « Tous meurent parce que tous ont péché. » Verset 15, « Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, c'est-à-dire d'Adam, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché, celui d'Adam, n'est-ce pas, d'Ève, mais c'est Adam qui est responsable. C'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ok, Paul, il est en train de nous parler de qui là ? De Jésus, de ce qu'il a fait à la croix, de son œuvre pour nous sauver, pour nous donner, c'est un don gratuit, cet effacement de nos fautes, pour bénéficier de cette grâce de Dieu. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, de Jésus-Christ. Ainsi, de même que le péché, verset 21, a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu va juger, mais il y a la grâce possible. Et la question, c'est dans quelle sphère est-ce que tu es ? Est-ce que tu es dans la sphère d'Adam ? Est-ce que tu es resté un fils d'Adam dans la rébellion contre Dieu ? Ou est-ce que tu es un frère d'adoption de Jésus-Christ ? D'accord ? Est-ce que tu bénéficies de la grâce que Dieu a manifestée en Jésus-Christ ? Où l'amour de Dieu est manifesté parce qu'il vient au secours des pécheurs et sa justice est manifestée parce que Jésus meurt sur la croix pour nos péchés à notre place. Je voudrais conclure, juste pour rappeler ce qu'on a vu. Tous meurent, nous mourons parce que nous avons péché, parce que nous sommes pécheurs, parce que l'orientation de notre vie est tournée contre Dieu. La mort et la pénibilité de la vie nous indiquent que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde. Nous en sommes conscients en fait. Et le grand problème, c'est notre péché. Il est entré dans le monde avec Adam. Mais depuis, nous aussi, nous avons tous péché. Nous avons tous été rebelles à Dieu. Nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas des bonnes personnes par nature. Dieu est un Dieu d'amour, oui, mais aussi un Dieu de justice. Un Dieu d'amour ne peut pas condamner les gens. Il ne pourrait pas effacer les êtres qu'il a créés de la surface de la terre. Ben, en fait, si. Parce qu'il est aussi le Dieu qui va rendre justice pour le mal qui t'a été causé, mais aussi pour celui que moi j'ai fait, pour celui que tu as fait. Et de nouveau, le rejet de Dieu, cette attitude hostile à Dieu, mérite une punition à la hauteur de l'offense. Mais Enoch et Noé annoncent d'avance que Dieu peut manifester son amour sans atteindre à sa justice. Et ça va se faire par le descendant de Seth. D'accord ? Toute cette ligne-là de Enoch, de Noé. Et si vous lisez toutes les généalogies dans la Bible, vous arrivez à Jésus-Christ. Et c'est confirmé par Romains 5. Juste pour vous donner un avant-goût rapide, dans la suite du récit de Noé, nous allons voir deux éléments essentiels par lesquels la grâce de Dieu est mise en œuvre envers nous. Et nous, pour la saisir. C'est la repentance. Si Enoch ou Noé sont considérés comme des hommes justes, c'est qu'ils ont fait demi-tour par rapport à leur rébellion. La foi, on va lire ça la semaine prochaine, Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Donc il a préféré croire Dieu, faire ce que Dieu disait plutôt que suivre son propre chemin. Et quand on a ça, la repentance et la foi, on se retrouve à l'abri au moment où le jugement tombe. Et voyez ça dans le déluge, le jugement tombe sur tous, toute la population, toute la planète, même sur Noé. Sauf que Noé, lui, il est à l'abri, dans l'arche, conçue par Dieu. Le jugement tombe aussi sur lui, mais il est à l'abri, dans l'arche. En repartant ce matin, le même appel retentit jusqu'à toi. Vas-tu te détourner de ton péché ? Mettre ta confiance dans ce que Dieu dit. Si c'est le cas, ta vie peut être cachée en Christ, à l'abri en Jésus-Christ. Le jugement est déjà tombé sur lui, il ne va plus t'atteindre. et tu n'as plus à craindre ni la mort, ni le jugement, ni la condamnation de Dieu. En fait, tu vivras. Amen. Je vous invite à vous rappeler maintenant de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et je vous invite à commencer à le faire en chantant un chant, le 127, qui nous parle de ce que Christ a fait à la croix pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. On se lève.